Improvisation is just something natural you do.
Improbox.
Improbox.
Improvising is living.
Le B.A.B.A. d'Ibé. Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
Bonsoir. Nous sommes le mercredi 18 novembre. Il est 19h08 à Paris. Nous sommes en direct et vous écoutez Improbox Radio sur TSF Jazz. Mon invité pour cette Improbox Radio numéro 2 et qui sera avec nous pendant environ une heure va nous faire peur. Il va même nous faire très peur. Parce qu'il aime ça. Il aime effrayer les gens lorsqu'ils sont confortablement assis sous leur plaid, pourtant si rassurant au bord de cette cheminée qui crépite, pourtant si chaleureuse. Un petit disque de jazz en fond sonore et on a beau avoir en main un succulent verre de vin rouge, rouge. Oui, rouge comme le sang dont mon invité se joue avec malice depuis ses 20 ans, sous sa plume malicieuse et délicatement poétique et parfois grave flippante, comme dirait ma fille. Et ben derrière cette ambiance qui semble rassurante, accueillante, les ombres de mon invité longent les murs sombres. Ces ombres vous regardent, vous analysent et il est là, partout, dans ces récits qu'on a du mal à ne pas lire. Une fois passées les premières pages, une mélodie entêtante vous occulte votre cheminement de pensée traditionnelle et vous happe dans les méandres d'un imaginaire supplanté d'un décor digne d'une pièce contemporaine, classique, capricieusement rebelle et séditieuse. Rien de plus exquis qu'un parfait désaccord majeur. Et on entend cet accord. Voilà, le gros boom est là. Pendant que vous écoutez ces quelques lignes que je vis et que je lis avec maladresse, car mon invité me possède déjà, il a pris possession de mon esprit, de mon âme. Et là, vous vous dites, mais il se passe quoi sur TSF Jazz? Ils sont devenus zinzin ou quoi? Oui, on est devenu un peu fou. On a invité un mec qui n'est même pas présentateur de radio, hein, moi. Et le mec, il invite un mec qui n'est même pas jazzman. Le monde n'est plus ce qu'il était. Acceptons-le, acceptez-le. On est passé de l'autre côté, le côté où tout le monde flippe grave, comme dirait ma fille, génération Covid-19. Hein. Bon, allez, je m'emballe un peu. En fait, ça s'appelle l'imaginaire, hein, parce que imaginer, c'est parfois imaginer le meilleur. Et savoir de quel meilleur nous sommes capables, hein, nous, de quoi nous sommes capables les meilleurs. Et, mais c'est aussi imaginer le pire pour savoir de quoi l'autre est capable, hein, le pire, l'autre, c'est le pire. Et ça, c'est grave, flippant, comme dirait ma fille. Inviter cet artiste aux accords dissonants, aux accords qui bousculent, aux accords miroirs. Tu sais, les accords miroirs, c'est tu écoutes un accord tel qu'il est joué, ça te fait un peu peur, ça sonne pas très juste. Et puis tu prends la partition, tu la mets devant un miroir, et là tu relis les notes, mais inversées devant le miroir, et tu joues les mêmes notes à l'envers, et ça sonne super bien. Bah oui, ça sonne juste parce que c'est presque, presque tout est crédible dedans. Tout est donc dans le presque. Relire et écouter ces accords pour préparer cette interview m'a littéralement replongé dans les arcanes du chaos, l'un de ses plus grands succès. Et j'ai découvert il y a bientôt 15 ans ce bouquin, grâce à mon poteau Nicolas, hein, Nicolas B, que j'embrasse au passage. Et ces arcanes du chaos mettaient en péril toutes les certitudes du gars que j'étais, parce que j'étais jeune, d'aucuns diraient naïf, et parce qu'avec son imagination, ce célèbre auteur devenu star de la littérature populaire te fait bien cogiter. Puis quand t'as goûté une fois, tu plonges. Voilà, c'est comme ça, ça s'appelle l'addiction, c'est grave, flippant. Voilà, comme dirait qui ma fille.
Votre fille.
Merci beaucoup. Merci de suivre. Hein. Voilà, peut-être vous avez deviné qui est mon invité, mais c'est certainement pas cette petite voix sympathique qui me fera oublier les sombres heures de mes lectures nocturnes dissonantes. Si mon invité était compositeur, il serait compositeur de musique de film, à mon avis. Il s'inspirerait de musique contemporaine et travaillerait avec du jazz, découpé, décomposé en petits morceaux et joué par des morts vivants. En même temps, si tu vas dans un collège et que tu demandes « Hey, les enfants, c'est quoi pour vous le jazz ?» Ben, je pense que ça ressemblera à peu près à ce que je viens de dire. Voilà, le gros clash, je sais, je vois les gens arriver là tout de suite. Le gars, il fait sa deuxième émission, il est déjà en mode octogone. Bon, Malouf, on se calme. Je vais redescendre d'un petit quart de ton, comme dirait mon pote magicien Yann Frisch. Ah bah tiens, voilà, c'est ça en fait, c'est de la magie. Voilà ce qui nous réunit ce soir. Nous, on aime la magie. Votre magie, mon cher invité, est poétique. Elle fait voyager, elle fait peur, mais elle parle aussi d'amour. Il y a dans les histoires que vous nous racontez un peu de tout, un peu de suspense, de tendresse, beaucoup de bienveillance. Vous aimez nous faire peur, mais vous n'allez jamais trop trop loin. Enfin, bon, on va pas tout dire là maintenant, hein, on va pas faire de spoiling. En vrai, vous, l'humain, vous n'êtes jamais trop loin, vous nous faites peur, mais vous nous rattrapez toujours un peu avant que ça aille trop loin. Vous êtes un peu flippant, mais bienveillant, vous êtes un peu comme un gros nounours en fait. Hein. Voilà comment j'ai envie de finir cette petite présentation désuète. Vous êtes un nounours. Comment ça va, Maxime Chatham? Est-ce que vous êtes grave flippé par mon introduction?
Bonsoir, quelle introduction.
Hein, c'est flippant un peu comme intro, non?
Ah non, c'est merci, un immense merci pour cette introduction qui est très très belle. Et c'est rare d'entendre que j'écris des livres avec une forme de poésie, ça me touche énormément. Parce que mine de rien, oui, je fais peut-être flipper parfois les gens, mais je m'attache à le faire parfois avec une forme de légèreté, en tout cas une forme de poésie quand c'est possible.
Moi j'entends de la bienveillance. J'entends beaucoup de bienveillance. Regardez, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais il y a un chapitre, moi ça m'a vachement surpris, c'est le chapitre 37. Il fait une page, l'équivalent d'une page. Et en fait, je vais pas spoiler évidemment, mais vous, dans ce livre qui s'appelle L'Illusion, qu'on va pas complètement décortiquer hein, ce soir dans un Probox, mais on va parler de vous, de la création, on va parler de plein de choses. Il va même se passer un petit happening à un moment donné vers la fin de l'émission, vous allez voir. Mais malgré tout, je me dis, dans ce chapitre 37 par exemple, vous nous plongez, je sais pas si vous vous souvenez de quoi il s'agit, le chapitre 37, mais vous nous plongez dans un truc. On se dit, oh là là, mais il est fou, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on n'a même pas le temps de trop flipper. Vous nous reprenez quand même dans vos bras et vous nous dites, non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, j'ai pas tout de suite te rendre fou. On va prendre
c'est
notre temps.
C'est le principe de l'illusion, justement, c'est de parvenir à nous faire croire à quelque chose, à ce qu'on se dise, bon sang, il est en train de se produire quelque chose d'abord que j'ai pas vu venir, et puis soudain, non. Tout s'effondre et c'est autre chose. Et c'était un des concepts de ce roman, c'était de jouer avec le lecteur, de lui faire croire pendant quelques chapitres qu'il va dans cette direction et au moment où il pense qu'il a compris avant le roman où on allait, de lui montrer qu'il s'est fait manipuler en désamorçant le truc pour relancer sur autre chose et ainsi de suite. Et ce chapitre 37 en fait partie.
C'est ça, il en fait partie. Et moi, en tout cas, ça m'a j'ai l'impression que vous jouez de nous. Vous jouez de nous, vous vous amusez. En fait, ça m'a fait, pour ça que j'ai cité Yann Frisch, qui est un pote magicien, et je vous ai dit il n'y a pas très longtemps que j'avais envie de vous présenter, parce que c'est un peu la même chose quelque part. En fait, vous jouez de nous comme un magicien, vous repérez presque où est notre faiblesse, quelque part, là où on a envie d'aller, parce que si on achète vos bouquins, c'est qu'on a envie d'avoir peur. Donc, forcément, un tout petit peu quand même. Donc, vous retardez un peu le truc et vous dites, non, c'est pas là que je vais te faire peur, mon pote, c'est pas là. Ça va un tout petit peu plus loin, tu vas voir.
Ouais, en fait, moi, je parlerai aussi de... Non, mais c'est très vrai. Et je parlerai aussi un peu de musique quelque part parce que j'essaye de jouer, moi j'ai pas d'instrument, c'est les mots, et j'essaye de vous fredonner une chanson, une mélodie, et tandis que vous vous faites emporter par cette mélodie, vous oubliez un peu derrière l'espèce de rythmique qui est grave et avec laquelle moi je continue de jouer. Et donc il y a un peu de musique et il y a, pour aller jusqu'au bout de votre métaphore, il y a, oui, un peu de magie dans le sens où c'est un tour de passe-passe, un thriller. J'écris quelque chose que je vous raconte avec la main droite. En réalité, la main gauche est en train de raconter autre chose sous vos yeux, mais vous ne le voyez même
et
pas.
On le voit pas.
Et à la fin du roman, je vous montre que la main gauche avait fait autre chose, mais vous n'aviez pas regardé dans la bonne direction.
Bah, c'est une super, super belle métaphore. Et ben, du coup, voilà, on va parler de mélodie, on va parler de main gauche et de main droite. Il y en a une qui manie ça magnifiquement bien sur son violoncelle et qui chante en même temps quand elle joue, elle s'accompagne. C'est une jeune artiste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Nesrine, qui vient de sortir son tout premier album éponyme. Nesrine, c'est une jeune musicienne à la fois chanteuse mais multi-instrumentiste, mandoline. Elle a joué de la musique arabo-andalouse à une époque, musique classique aussi. Elle a joué dans des orchestres comme l'Orchestre de Valence. Elle a participé à des projets au Cirque du Soleil. Nesrine revient avec un morceau qui s'appelle Memories et qu'elle va nous interpréter maintenant en live. Ça fait 10 mois qu'elle n'a pas joué devant des gens. Et là, elle est sur TSF Jazz en direct.
Memories. My memories. I think I gave the wrong impression, trying to deal with my emotions. Same story brings me back to that comedy, but my just has to be an alchemy. Who, 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 I. Her mom told me lately she didn't feed me. Do you think my body remembers what my brain didn't get? I surrender. Who? Surrender. Who? My memories are vague, source of confusion. It helps me protect myself from illusion. Who? 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 Don't worry, I don't feel guilty. Don't worry, I don't feel guilty. Did you ever say people are crazy? I don't need to be locked out in others' insecurities. One of a kind they told me to be. But isn't it that everyone should be? Who? Who? Who?
Improbox, Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Nesrin Memories, issu de son premier album éponyme. Artiste que j'ai découvert grâce à TSF Jazz. Nesrin est franco-algérienne et, comme vous avez pu le voir, chante et s'accompagne elle-même au violoncelle. Enfin, comme vous avez pu l'entendre d'ailleurs plutôt. Ça, c'est de la poésie.
Oui, c'est un beau voyage.
C'est de la poésie. Ouais. Et moi, je sens beaucoup de poésie dans votre écriture. Alors, je voulais pas. Je reste quand même plutôt au début. Hein. Je vais lire juste un petit passage parce que j'étais étonné de. Les précédents livres que j'avais lus chez vous étaient plus. Il y avait quelque chose de plus pragmatique, plus scénarisé, plus plongé dans la technique de l'histoire, de ce que vous aviez raconté. J'ai l'impression que maintenant, après quoi, 26 bouquins, 26 livres, 26 romans.
Moi, je crois que c'est le 26e, ouais.
Vous êtes devenu un poète. Sa chevelure flamboyante, intolérante à la norme, ni blonde ni châtaigne quelque part ailleurs, refusait de ployer dans la brise, menait sa propre bataille. Hugo avisa l'expression tendre se dévoilant petit à petit sur ses lèvres claires, le soupçon de Fossette n'osant sourde tout à fait, et il aimait tout de suite cette manière qu'elle eut de pencher un peu la tête sur le côté en l'apercevant. Elle irradiait une complexité fascinante, une essence romantique dans une enveloppe sauvage. Ça, c'est de la poésie quand même. Ou est-ce que pour vous, ça vient naturellement? Est-ce que vous prenez la tête quand même en écrivant un peu, en cherchant un peu à être poète, un peu poète? Ou est-ce que c'est votre manière d'écrire devenue naturelle maintenant?
En fait, ça dépend des livres. Il y a des livres qui exigent d'être très techniques. Et c'est un médecin légiste. Alors, vous allez voir, la transition est difficile. Un jour, un médecin légiste, j'ai assisté à pas mal d'autopsies pour mes romans. Et je lui dis, mais comment vous faites en termes d'émotion pour encaisser tout ça? Il me disait, je reste technique. Je ne suis pas dans l'émotion. Et en fait, je me suis rendu compte que moi-même, dans certains romans, j'ai des moments où je suis vraiment très technique parce que le roman l'exige. Et puis, il y a d'autres livres dont l'histoire, dont même la narration elle-même exige d'avoir une autre voix. Ce serait comme de changer d'une forme d'instrument pour raconter une autre mélodie. Ben moi, c'est comme ça. J'ai besoin, pour certains livres, d'être dans une expression plus viscérale, plus poétique, plus lyrique. Ça dépend des livres, vraiment. Et celui-ci était à cheval entre différents univers et me permettait d'avoir certains élans comme ça, un petit peu plus... surtout que là, on est sur une description. Alors, les descriptions des personnages physiques, c'est toujours un truc un peu compliqué pour un romancier, parce que quand on a fait 26 bouquins, on a l'impression d'avoir dit 10 fois, il est brun, fait telle taille, etc. Il faut trouver un moyen de raconter quelque chose sur le personnage, dans la description, qui en plus raconte quelque chose du personnage, au-delà même du physique.
C'est-à-dire que quand un narrateur raconte le détail physique d'une femme dont le héros, ici Hugo, est en train un peu de tomber amoureux, le narrateur se met dans la peau de Hugo pour, quelque part, raconter comment Hugo voit cette femme, en fait. C'est ça. Donc la poésie, c'est la poésie de notre héros dans ce film, dans cette histoire. Moi, je suis rentré dedans comme on rentre dans
un
film.
J'ai l'impression.
D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait un lapsus, mais en fait, parce que j'allais vous poser la question juste après, est-ce que ce genre de scénario aussi, ben, vous allez pouvoir répondre aux deux questions à la suite, mais est-ce que ce genre de livre ne donne pas quelque part naissance à un scénario et puis ensuite à un film? Pourquoi?
Alors déjà sur la création même du la passage, poésie, ouais. En fait moi je mets dans la peau avant tout du lecteur en réalité. Qu'est-ce que j'ai envie que le lecteur perçoive de cet échange-là? Et pour moi ce qui est important à ce moment-là, c'est la première fois qu'il voit cette femme. Moi je sais qu'ils vont tomber amoureux très vite et ça va être une évidence pour le lecteur. Mais j'ai envie qu'il puisse le saisir quasiment dès leur première rencontre. Mmh. Parce que finalement ce personnage-là, ce Hugo, à l'instant même où il la voit, quand il descend de son train au bout de 3 pages du roman, on dévoile rien, il la voit et ne serait-ce que la façon dont elle le regarde, elle penche la tête, elle sourit, il y a déjà quelque chose qui s'est passé, qui s'est inscrit sur sa rétine et qu'il n'oubliera plus. Ouais. Et j'avais envie que le lecteur le saisisse. Donc je pouvais pas juste dire, bon, elle le regarde, elle penche la tête, il trouve ça mignon, c'était pas terrible. Mmh. Il fallait trouver quelque chose de plus fort. Voilà, en termes d'émotion, il fallait que ça s'inscrive dans une émotion.
Et le cinéma?
Pour le cinéma, c'est différent. J'ai jamais voulu laisser mes droits comme ça au premier venu.
C'est ça, on vous a proposé plein de fois, mais vous avez toujours refusé.
Oui, mais en fait, j'ai pas envie de voir mon roman adapté n'importe comment. Je suis bien conscient qu'à partir du moment où il sera adapté, ça se fera sans moi, c'est un peu le deal. Et puis même, j'ai envie d'ailleurs que quelqu'un d'autre s'approprie mon livre pour en avoir une vision qui sera la sienne et du coup qui va enrichir le propos de base.
Est-ce qu'il y a un réalisateur, une réalisatrice où vous dites, si elle ou lui me propose, go, vas-y, je signe maintenant?
Oh, on est à l'abri de que ça se produise, parce que je vous citais des stars américaines comme David Fincher par exemple. Ouais, on est assez tranquille.
Moi, j'ai quelques idées aussi. petite question. Je me disais en lisant, est-ce qu'il le fait exprès? Parce qu'en fait, quand je lis, je vois. Alors, il y a combien de pages en fait? Attends.
En 400 et quelques.
Il y a 400 et quelques. Alors, sur les 400 et quelques, quand même, on a envie des fois que ça avance un peu plus vite parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Et en fait, non, parce que cette petite description-là, cette petite poésie te force en fait et en fait on prend notre temps, en fait on va pas tout de suite découvrir, sinon c'est pas drôle.
Oui, en fait, et surtout ce livre là j'ai des livres qui sont, c'est un de mes livres les plus lents entre guillemets, parce que j'ai des livres qui sont quasiment chaque chapitre raconte un truc, et à la fin du chapitre l'idée c'est de faire ce qu'on appelle un cliffhanger. Donc le chapitre doit se terminer, le lecteur se dit, vous savez, c'est le principe du moi ça m'arrive quand je lis un thriller bien fichu la nuit, il est 1h du mat, je me dis, ah là là, je me lève dans 5h, je vais m'arrêter là, allez, à la fin du chapitre je me couche. J'arrive à la fin du chapitre, je me dis, non, je veux trop savoir ce qui va se passer. Et je lis le chapitre depuis, je fais tout le bouquin toute la nuit et merci, j'ai pas dormi.
Donc c'est ce que vous venez de faire avec nous en fait là.
C'est ce que j'essaie de faire dans un thriller habituellement, mais ce livre-là est un peu particulier. Je me suis autorisé à être un tout petit peu plus lent, à avoir des changements de tempo dans l'écriture parce que c'était important. Parce que ce livre-là se construit sur différents doutes, sur une manipulation, on l'a un peu évoqué, sur l'illusion de croire qu'on a compris où on allait. Et puis en fait, la question très vite, c'est, faut quand même que je précise, c'est quand même l'histoire d'un jeune homme qui débarque dans une station de ski l'été où il y a personne. Ils sont une dizaine, ils vont faire l'entretien, il y a plus de touristes. Et puis pendant 5 mois, ils vont devoir vivre leur vie là-haut, tout seul, isolé dans la montagne. Et donc il va se passer quelque chose, on va pas raconter quoi. Et très vite, le lecteur va s'interroger, mais qui est responsable de ça? Qui a fait ça? Et puis petit à petit, on va se dire, mais et si c'était le héros, est-ce qu'il est si fiable que ça? Et puis, est-ce que c'est un roman réaliste, policier, ou est-ce que c'est un roman fantastique? Et de jouer sur toutes ces questions-là, pour que ça fonctionne bien, il fallait qu'il y ait des rythmes différents, il fallait qu'il y ait des moments où j'ai le temps de poser une ambiance, d'interroger le lecteur, de jouer dans l'introspection du personnage principal. Et puis d'autres moments, des accélérations autour de scènes de mystère, d'énigmes, etc.
Et on est ici dans l'improbox, hein, on est sur TSF Jazz. L'émission s'appelle Improbox, pas par hasard, parce que j'imagine que parfois, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler aussi, de vous poser quelques questions. Il y a une partie d'improvisation quand vous écrivez. C'est-à-dire que tout n'est pas calculé. Il y a des moments même où j'imagine que vous écrivez, vous pouvez peut-être vous tromper en écrivant. J'imagine, évidemment. Est-ce que des fois, en écrivant un passage, vous terminez un passage, pas 2, 3, 4, 5 pages, vous vous relisez et vous dites... Ah non, là, je vais trop loin. Là, ça fait trop peur. Là, je peux pas. Ou l'inverse. Non, là, c'est rien. Là, c'est du pipi-tcha. Là, faut que j'aille plus loin. Faut que je les bouscule quand ils vont lire. Est-ce que c'est à cause de ce genre de sentiment-là, lié à la peur, que vous corrigez, que vous changez vos idées, vous les transformez, un peu comme un improvisateur se dit, je suis pas allé assez loin avec mon instru, faut que je les bouscule un peu, faut que je sois un peu dissonant, faut que je sois un peu ceci.
Il y a un peu de ça, mais en fait c'est différent parce que d'abord je prépare beaucoup mes livres avant de les écrire, je réfléchis vraiment à comment ça commence, comment ça se termine, quelles sont les grandes articulations du récit. J'ai beaucoup de documentation dans certains de mes livres, alors moins dans celui-ci parce que le lieu, la station de ski, je l'ai inventé, mais en général j'ai beaucoup de doc, donc il faut l'assimiler. Alors
vous êtes un peu inspiré non c'est pas ça, d'une sorte de château de, moi j'ai on en avait parlé une fois
D'une station de station de ski,
ouais.
Pour ce livre là je me suis inspiré de lieux, oui, de stations de ski que je connais, etc. L'idée c'était de retranscrire cette atmosphère particulière, mais juste de plonger le lecteur dans ce monde là quand il n'y a plus personne. Quand on imagine ces longues barres désertes, et clairement il y a un côté un peu shining
hein, ouais, château,
on est un peu là dedans mais sur l'improvisation il y a... En fait, ça, oui, je sais où je vais.
Il y a des jets comme ça qui sortent tout seuls.
Complètement.
Et vous relisez, vous dites, ouais, non.
En fait, tout est possible. C'est-à-dire que parfois, je vais me relire et je vais me dire, ok, je me suis laissé embarquer et ça ne va pas du tout dans la direction où je voulais aller. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est quand même intéressant? Est-ce que c'est utile pour mon récit? Est-ce que c'est mieux que ce que j'aurais voulu faire? Parfois oui, parfois non. Et puis à l'inverse, parfois je me relis, je me dis, non, là, je me suis complètement planté. J'ai perdu de vue. En me faisant plaisir, c'est exactement ça. Je me suis fait plaisir pendant un moment, mais j'ai perdu de vue mon propos. Et même si j'adore ces 5, 6, 10 pages.
Vous remettez en question.
Ouais, il faut que je les vire parce que ça ne fonctionne pas, il faut que je recommence.
Vous déchirez. Vous êtes un écrivain prolifique et cette masse d'idées créatives. Est à la hauteur de l'humilité que vous avez, du coup, de reconnaître quand vous avez écrit une super idée que c'est pas la bonne, de la transformer.
Ouais, je sais pas si c'est l'humilité, c'est garder en fait le cap surtout. C'est savoir où on va et pourquoi on y va et de parvenir à pas trop dévier de ce cap. Et quand on dévie par maladresse, par hasard, par inspiration, juste être capable, et ça je pense que c'est du recul, c'est plus de l'expérience, de voir si c'est intéressant cette nouvelle matière, ou si au contraire elle est trop dissonante, pour rester en registre de la musique, par rapport au reste de ce que j'avais en tête.
The perfect scenario pour un perfect man. On va écouter tout de suite, juste après la publicité, un autre extrait de l'album de Nesrin, My Perfect Man, juste après la pub.
Improbox.
Et en réalité, la vie, c'est l'improvisation.
Le B.A.B.A. d'Ibé.
Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Et ce soir, donc, j'ai un invité, Maxime Chattam, avec qui nous parlons d'improvisation. Mais maintenant, on va écouter tout de suite notre autre invité, Nesrin, qui chante et qui s'accompagne au violoncelle. C'est un extrait de son nouvel album, premier album éponyme Nesrin, et ça s'appelle My Perfect Man.
A piece of each of you it is, leading to the heights of his sublime eyes until I lose the reason why I got to choose. In a state of grace, gambling on your progress,
Only numbers can witness the boundaries of that praise. My perfect man, my perfect man, I love you. But who am I and who my perfect man, perfect man, oh, I love you. But who am I and who are you? My paradise is all open to joys, faith and unspoken. Then the doors will close, leaving the way to garden of glows. My perfect man, my perfect man, I love you. But who am I and who are you? My perfect man, my perfect man, I love you. But who am I and who are you? I know, oh, I know, I think I know. My perfect man, I love you. But who am I? Who are you? My perfect man, my perfect man, I love you. But who am I? And who are you? I know how, oh, I know, yes, I know that
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Nesrin, ce premier album qui porte son nom, Nesrin, un extrait My Perfect Man, ça c'est de la poésie, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, et Maxime Chattam, tout à l'heure vous allez vous croiser avec Nesrin, vous allez faire une création, c'est le principe un peu d'un Probox, c'est-à-dire que sur un Probox, j'invite des personnes qui, voilà, qui ne se connaissent pas. Pas, j'espère en tout cas, la plupart du temps.
On ne se connaît pas, je crois.
Voilà, et l'idée c'est que l'un inspire l'autre. Donc vous allez tout à l'heure, c'est un petit moment de happening, vous allez voir, ça, c'est un moment de créativité, c'est un peu la petite signature d'un Probox.
Là j'ai une grosse pression, parce que vu ce qu'on vient d'entendre.
Et j'ai envie de papoter encore un peu avec vous, parce que vous êtes ici à l'occasion de la sortie de votre nouveau roman L'Illusion, qui est un roman à la fois haletant, poétique encore une fois, mais ça va être un peu le mot d'ordre ce soir, je crois, la poésie, parce que vraiment, c'est ça que ça m'a inspiré, moi, vraiment. Et au-delà du fait d'avoir peur, hein, attends, parce qu'évidemment, quand t'achètes le livre, le but, c'est d'avoir peur, donc c'est évident que t'as peur. Mais il y a de la poésie derrière, et c'est ça qui m'a touché aussi beaucoup, l'humanité qu'il y a derrière. Et je voulais... Il y a une question qui me taraudait depuis que j'ai fini ce bouquin. Je me disais, est-ce que quand on en a écrit autant, est-ce que comme les musiciens, on se recopie un peu de temps en temps, c'est-à-dire on prend une petite mélodie qu'on a déjà composé une fois, on se dit allez, je vais transformer, je vais la mettre dans une autre tonalité, je vais faire jouer ça par un autre instru, personne va voir. Et petite question qui fâche, mais ça m'intéresse de savoir, est-ce qu'on reprend les mêmes recettes? Et c'est pas grave, mais je me dis simplement, est-ce que Moi, j'ai pas cette impression-là parce que les bouquins que j'ai lus de vous sont très différents les uns des autres. Mais je me dis peut-être que moi, je suis pas assez, je m'y connais pas suffisamment. Si ça se trouve derrière, le mec, il a utilisé la même technique,
la même recette,
la même mélodie, et il la transforme un peu. Mais en fait, je me fais avoir à chaque fois par le même tour, en fait.
Non, je crois pas parce que après, ça dépend des romanciers. Hein, mais moi, j'aime écrire tout le temps. J'ai 1000 idées. C'est le 26e en 18 ans, je crois, de publication. Donc, c'est juste que les idées viennent. En revanche, il y a des obsessions qui reviennent. Et ça, oui, je joue avec les obsessions. C'est-à-dire que pendant, je sais pas, sur ces 26 bouquins, il y en a près de la moitié au moins, voire même plus encore, qui parlent toujours, par exemple, du mal. Qu'est-ce que c'est que le mal dans la société moderne, au-delà du côté purement religieux? Est-ce que le mal existe? Est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est le mal pour les êtres humains, pour les hommes? Donc ça, c'est une marotte avec laquelle j'ai joué énormément et je rejoue régulièrement avec. D'ailleurs, dans l'illusion, encore une fois, je le fais un peu. Après, il n'y a pas vraiment de recette, je crois pas. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui fait quelque part ma marque de fabrique, en quelque sorte. C'est que les gens qui me sont fidèles, et je les remercie depuis le début, voient bien que d'un livre à l'autre, je vais dans des directions parfois très différentes. Je fais des romans policiers très, très pragmatiques, avec beaucoup de médecine légale, etc. Et puis le coup d'après, je vais faire un roman d'aventure fantastique. Puis après, je vais revenir à un polar noir, mais très, très lyrique, très poétique. Puis je bascule dans un roman fantastique d'épouvante. J'aime bien jouer, en fait, dans les univers différents. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez cité Les Arcanes du Chaos. C'est un roman quasiment géopolitique. Mais c'est un roman, mais qui joue sur les grandes théories de la conspiration aujourd'hui. Et je me suis beaucoup amusé à faire ça. C'était un jeu pour moi. Mais du coup, une fois que je l'ai fait, j'ai plus envie de le refaire. J'ai envie de faire autre chose. Et c'est ce que je fais d'un livre à l'autre. J'essaie de trouver à chaque fois une nouvelle façon de m'amuser. Les ingrédients sont les mêmes, mais encore une fois, ça va être un autre plat, donc c'est une autre recette.
Est-ce que vous écrivez, est-ce que vous inventez vos personnages en fonction de gens que vous avez déjà rencontrés?
Les tueurs en série dans mes livres, j'espère pas.
Non, pas les tueurs en série. Mais si, enfin, d'une certaine manière, on peut parfois. Regardez, moi, j'avais un jeu que je faisais quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, je le fais parfois même encore un peu. Je l'avoue, c'est que quand je suis assis, que j'ai rien de spécial à faire dans la rue, par exemple, je regarde les gens et j'essaie d'imaginer leur vie. Et parfois, ça peut arriver que je vois passer quelqu'un et je me dis, oh là là, lui, il m'inspire pas confiance. Lui, là, je suis sûr que c'est un tueur en série ou je sais pas quoi. Et on leur invente des vies, quoi. Et je me dis, est-ce que vous faites ça, par exemple?
Non, alors moi, ce que je fais, c'est, alors, pour le coup, s'amuser à essayer d'inventer la vie des gens dans la rue, ça, je me retrouve beaucoup là-dedans. Mmh. C'est un vrai jeu. Non, par contre, j'aime bien créer des personnages. Alors, il y a ceux que je vais créer pour servir mon histoire. Donc, toute leur histoire, ce qu'ils sont, leur façon de penser, est au service de la narration. Et puis, il y a tous ceux qui sont des pièces mobiles avec lesquelles je peux jouer, dans lesquelles j'ai une possibilité de composer à peu près tout ce que je veux. Et donc là, je crée ce qui me vient le jour J, au moment où j'y suis. De temps en temps, je vais faire des clins d'œil, des private jokes, comme on dit, en faisant un personnage qui ressemble à quelqu'un que je connais, un copain. Mais c'est assez anecdotique, finalement. Donc non, j'aime bien créer, j'aime bien inventer. Par contre, mon grand jeu, et c'est le grand jeu, je crois, des gens qui me connaissent bien, c'est de définir dans le roman ce qui vient de ma tête, ce que moi je pense, moi Maxime Chattam, et ce que mes personnages pensent. Parce que j'aime bien, c'est un vrai défi, commencer avec un personnage et me dire, tiens, lui, je vais lui faire avoir ce type de pensée sur le monde, la société, etc. Alors que je suis aux antipodes, moi, de penser ça. Et puis parfois, je glisse des trucs que moi je pense sur la société. Et ça, c'est assez
Mais vous, Maxime Chattam, ou vous, Maxime, l'autre, parce qu'en fait, vous jouez même avec la réalité, parce que même votre nom de scène, c'est pas votre nom. Donc quelque part, j'arrive même pas à savoir si c'est le vrai Maxime que je connais.
Je vais retirer mon masque, et sous mon masque, il y a un autre masque.
C'est ça, c'est quand dans les films, en fait, on enlève le premier, le deuxième, le troisième masque. Le vrai Maxime, est-ce que le vrai Maxime est un nounours, comme j'ai dit au début de cette émission?
Oui, il y a une part de ça, ouais. Mais en fait... c'est le même qui est capable de raconter des moments très tendres dans les livres avec des vrais moments d'émotion.
Il y a même de la sensualité à des moments.
Oui, bien sûr. Il y a parfois certains de mes livres dans lesquels c'est sur des pages et des pages et je pense que ça peut même être très émouvant parfois. Et puis en même temps, c'est le même qui est capable d'écrire des scènes abominables et de se mettre dans la tête d'un tueur abominable sur 600 pages sur certains de mes livres pour vraiment essayer de décomposer l'esprit, l'âme d'un tueur en série, de comprendre pourquoi il fait ça, d'où ça lui vient, parce que dans la réalité, pour le coup, j'ai fait des études de criminologie, donc je peux vous le confirmer, on ne sait pas d'où viennent les tueurs en série, comment ils se construisent. Quand on dit oui, mais la plupart ont eu des enfances terribles, faut juste se rappeler que 99,9% des gens qui ont des enfances abominables deviennent des gens bien. Et à l'inverse, il y a quelques tueurs en série qui finissent par reconnaître, non, mais moi j'ai une enfance normale. Donc l'hypothèse, enfin la raison vient pas de là. Il y a des explications, mais elles ne suffisent pas à tout comprendre. Et c'est ça qui est jouissif pour un romancier, c'est d'avoir tous ces outils-là, d'avoir lu beaucoup sur le sujet et de pouvoir combler les blancs avec ce qui moi me vient et ce qui est, on va dire, la partie créatrice du romancier.
Très bien, j'aurais envie de vous poser encore des dizaines et des dizaines de questions. On va peut-être pas pouvoir développer sur tout, mais moi, quand je commence un de vos bouquins, tout de suite, j'essaye dans les 15 premières pages de savoir qui est le coupable. Évidemment, je me plante. Mais il y en a un, par exemple, là, c'est, je dirais pas, évidemment, je vais pas révéler, mais le vieux là du manoir, moi, je l'aimais depuis le début.
Ouais.
Moi, ce mec-là, je sais pas, j'avais beaucoup d'affection pour lui. Et je l'aime encore, en fait. C'est ça qui est bizarre.
Mais tant mieux, c'est que ça marche.
C'est bon.
Une illusion.
On va passer à la petite partie création de la soirée. Ce petit moment que je rêvais de créer. Et c'est TSF qui m'a offert cette possibilité-là d'inventer ce moment. C'est-à-dire que vous, Maxime, vous me disiez avant cette émission, Maxime Chatham, que vous n'avez jamais fait de musique de votre vie.
C'est ma plus grande frustration, je pense.
Vous n'avez jamais. Quel âge? Bon, allez, entre. Vous avez.
J'ai 44 ans.
44 ans. 44 ans de vie et à jamais de musique. Et pourtant, ce soir, vous allez composer une musique en direct sur TSF Jazz. Et c'est cette interprète incroyable qui s'appelle Nesrine qui va prendre votre invention, votre composition, qui va la transformer, l'embellir certainement, l'améliorer, improviser autour. Mais c'est vous qui allez composer. Alors, j'ai peut-être deux, trois petites choses, des petites pistes qui vont nous aider, évidemment. On est donc sur Improbox, hein, donc c'est beaucoup d'improvisation ce soir. Et c'est Nesrine qui va incarner cette improvisation, mais vous aussi un tout petit peu. Je vais vous aider à improviser un petit truc. Si vous étiez une note, vous connaissez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mm-hmm. Si vous étiez une note, vous seriez laquelle? Mais au hasard, lâche-toi.
Une note très...
Voilà, très bien. Votre vie, vous la qualifieriez de plutôt paisible, plutôt active, plutôt stressante, plutôt quoi?
Ma vie est très calme.
Très calme, très bien. Je dirais donc, c'est une vie calme, mais d'allure tranquille, d'allure...
D'allure très mélancolique.
Mélancolique, très bien. Et donc dans ce cas-là, si on parlait de sentiments, on dirait que vous êtes quelqu'un d'heureux, d'inquiet, de triste, de serein, de cynique, de mélancolique, de quoi? Comment vous définiriez?
Je suis quelqu'un de plutôt optimiste à court terme, mais pessimiste à long terme. C'est dur ça, de résumer ça avec une note de musique.
Ça serait bien,
variation qui commence peut-être dans les aigus et assez long, et puis qui monte, et puis qui d'un coup s'énerve un peu, mais quelque chose de très mélancolique.
Ouais. C'est super, ça vous inspire Nesrine un peu? Ouais. Bon, on va voir.
C'est dur là.
On va voir ça tout à l'heure. Alors Maxime, vous n'allez pas échapper à ça, hein, vous allez quand même, ça c'est la note que vous nous avez donnée, est-ce que vous pourriez inventer quelque chose ou rythmique ou mélodique, 3, 4, 5, 6 notes, peut-être 2 notes, 5, 8 notes, ce que vous voulez à partir de ça, même comme ça, lâchez-vous, wow. Fermez les yeux.
Alors attendez, j'essaie d'imaginer, je pense que j'imagine une note qui serait une mélodie, une note aiguë qui serait une mélodie, mais avant ça il y a...
Ça va bien nous faire flipper, ça je le sens.
Oui, espèce de ritournelle comme ça, un peu étrange.
Très bien, petite ritournelle étrange sur cette tonalité-là. Maxime Chatham, c'est un vrai plaisir de vous avoir dans cette émission. En plus, vous êtes super créatif.
Merci, c'est gentil.
Juste après cette petite page de pub, comme on dit, à l'ancienne, Nesrine va improviser sur cette petite nouvelle composition de vous.
Wow,
Nesrine, au violoncelle, peut-être au chant, on verra. Maxime Chatham, merci beaucoup.
Improbox.
Donc l'idée, c'est vraiment de faire de l'improvisation aussi pour s'amuser.
Le B.A.B.A. d'Ibé.
Non mais ça permet d'inventer, ça développe l'esprit d'inventivité.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Et ouais, exactement, c'est ça le principe. Improbox, c'est la numéro 2 ce soir. C'est ça le principe, improviser, et on est donc sur TSF Jazz, et la chanteuse et violoncelliste Nesrine va maintenant improviser sur un thème que lui a inspiré notre invité, Maxime Chatham, qui a quasiment pratiquement composé une idée, et avec une note, un état d'esprit, une émotion, et voilà, ce moment tant attendu, en tout cas qui, moi, m'excite vraiment dans cette émission-là et dans cette aventure Improbox, c'est ce moment où notre invité musique va improviser sur la composition de mon invité plateau. C'est maintenant Nesrine, c'est à vous.
Mmh. مثل السحر يرسم بأيدي السلام ندرسه في كل مكان لن يكن قبلا ولا بعدا ولن تكن دمع الطفل في أي مكان في أي مكان À travers les mains du magicien nous dessinerons la paix puis nous l'enseignerons à tous Il n'y aura pas d'avant ni d'après et plus jamais nous ne verrons couler les larmes d'un enfant plus jamais
Improbox, Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
J'avais presque envie de raconter une histoire ça, pendant
ça
que j'entendais.
Poils, hein. Ça sent le vécu.
Voilà. Ouais, il y avait un truc incroyable, il y avait une sacrée émotion. C'était tout à l'heure, je parlais de voyage, mais là, on y était. Là,
c'est rare qu'on entende ce genre de taxis orientaux sur TSF Jazz. Hein. Je crois pas me tromper en disant que c'est quand même très très rare. Et donc, alors ça, c'est ça, Nesrin. Donc, vous êtes chanteuse française, franco-algérienne. C'est ce que vous a inspiré. la création spontanée de notre invité Maxime Chattam. Vous avez senti la réalité, Maxime, dans ce jeu, ou est-ce que vous êtes dans la fiction quand vous entendez ça?
Non, là pour le coup j'étais dans l'émotion, j'ai embarqué et assez rapidement, moi j'avais des images là, j'avais des odeurs, j'avais des saveurs, j'avais un voyage et j'avais même une histoire qui montait là. Ah. Déjà avec les mots, alors je trouve que les sonorités de l'arabe sont un peu dingues, il y a quelque chose de musical, surtout quand on ne le parle pas, et puis forcément les mots qui ont été comptés dès le début m'ont mis dans une ambiance. Ah, j'aurais pu, ouais, je pense que je pouvais improviser une petite histoire là-dessus. Dingue ce voyage, ouais, merci beaucoup, hein, c'était super.
Merci.
Voilà, et
très émouvant.
Qui sait, peut-être que vous allez inventer, est-ce que vous écrivez des nouvelles, des petites nouvelles?
Oui, ça m'arrive bien sûr.
Ouais, c'est ça, bah, peut-être qu'il peut y avoir un parallèle avec des improvisations musicales. Je sais pas, faut faire des happenings comme on fait là, mais en concert.
Alors moi, j'écris beaucoup en musique, beaucoup avec des musiques de films, parce que justement, ça permet de créer un rythme, déjà une atmosphère, une ambiance. Donc là, j'y étais complètement.
Nesrine, est-ce que vous visiblement, vous avez également improvisé du texte là? Je me trompe ou pas?
Oui, c'est un texte qui est quand même une base un peu. Quand vous parlez d'improvisation, j'imagine toujours que l'improvisation a un cadre des fois. Mmh. Donc c'est des mots qui existent déjà, qui oui. sont déjà par là.
Que vous avez déjà beaucoup réfléchi.
Ouais, et ce soir, comme vous avez parlé de magie, de magicien, je me suis dit, mais c'est ça, c'est pour vous, quoi, Maxime, ça. Ça, plus vous, Ibrahim, et tout le côté oriental, alors ça faisait un mix de vous deux.
Mmh. Bah, je suis ravi en tout cas, Maxime. Wow. bravo Nesrine, et merci pour avoir accepté de jouer le jeu de cette expérience de l'impro box. Parce que rappelle quand même que vous sortez surtout un album qui s'appelle Nesrine,
oui.
et qui va dans des directions très différentes, parce que vous êtes une musicienne à la fois classique, à la fois jazz, à la fois orient, à la fois arabo-andalou, à la fois plein de choses. Et donc c'est un album très créatif, très... très transculturel, très multiculturel, et comme j'aime. Voilà, donc bravo et merci pour cet album, Maxime Chattam. J'avais envie de vous inspirer une petite histoire avant, et pour finir d'ailleurs, cette improbox numéro 2. Vous qui racontez les horreurs de ce que le fantastique a de plus inquiétant. Parfois, je me dis que finalement, vos livres sont peut-être une façon d'échapper à la réalité trop noire, trop crue, pour se plonger dans une sorte d'imaginaire tout aussi inquiétant, mais quelque part définitivement impossible. Alors imaginez, un soir d'août 1959, on est à New York, il fait très chaud. Un musicien de jazz noir qui se dirige tranquillement vers le club de jazz le plus en vue de l'époque pour y déposer sa petite amie, Blanche. Il va lui-même se produire d'ailleurs ce soir-là sur cette scène, qui est un peu l'épicentre de ce qui se fait de plus hype à cette époque-là à New York. Il a alors abordé par un groupe de policiers zélés qui font des rondes et qui le somment de quitter les lieux. Il refuse en expliquant qu'il n'a rien à se reprocher, puis évidemment il est alors interpellé par ses policiers devant tout le monde. Il refuse à nouveau évidemment de quitter les lieux, les policiers deviennent de plus en plus insistants, de plus en plus violents. Ils finissent par l'arrêter de force en le frappant à la tête avec leur matraque et il saigne. Les photos d'ailleurs parlent d'elles-mêmes, sans ces photos d'ailleurs personne n'aurait cru un seul instant que Miles Davis s'était fait frapper par la police pour être noir en 1959 et devant un club pour riches blancs de Manhattan. À notre époque, celle de Cédric Chouviat, George Floyd et toutes les victimes invisibles dont on ne saura rien parce que personne n'a filmé, on peut se demander ce que Miles aurait pensé de la nouvelle loi qui se profile dangereusement. Alors je rappelle juste 1 an de prison, 45 000 euros d'amende si on filme, etc. etc. Donc liberté de la presse, liberté d'expression, tout ça. Hein. On n'est pas dans une émission politique, même si le jazz est politique aussi. Donc je reviens à mes moutons. Là où la réalité sauve finalement ce qu'il y a à sauver. Vous, Maxime Chattam, imaginez seulement une seule seconde que Miles Davis meurt sous les coups des blessures en 1959 à l'âge de 33 ans. Est-ce que le monde aurait été le même qu'aujourd'hui ? Que serait le monde sans Kind of Blue, qui est sorti d'ailleurs la même année ? Que serait le monde sans Sketches of Spain, sans Nefertiti, sans Beaches Brew, On the Corner, Tutu, sans les pas loin de 60 enregistrements d'albums et live qu'il a produits après 1959 ? Pourtant, dans la vraie vie, Miles attendra plus de 30 ans pour produire un album qui exorcise la douleur de l'humiliation subie ce soir-là. Et l'album ne mâche pas ses mots, You're Under Arrest, vous êtes en état d'arrestation, sorti en 1985. Voilà comment un noir aux États-Unis en 1985 se voit encore, en état d'arrestation permanent. Récemment, j'ai pris le temps de réécouter cet album que, pour être tout à fait honnête, je n'aimais pas particulièrement dans la riche discographie de Miles, et puis j'ai compris. Mais c'est très très récent, hein. Faut un peu, allez, je vais le dire, connaître un peu le sujet ou se sentir légèrement concerné pour saisir et pour comprendre. J'ai senti la frustration de l'indifférence, j'ai senti la monstruosité des effets de la vérité du moment, incarnée de nos jours magnifiquement par Twitter par exemple, face à la vérité du temps. Alors voilà, Maxime Chatham, j'avais envie de vous encourager, qui sait, un jour peut-être, à la raconter cette vérité-là qui fait peur aussi. L'homme dans ce qu'il a de plus flippant, pour reprendre l'expression de ma fille, mais qui n'inquiète plus personne. Une sorte de 1984, mais baigné d'indifférence. Là où Orwell s'indignait, vous trouverez ça absolument normal. Une sorte de Black Mirror littéraire à la française. Alors imaginez le titre, 2059. Le pitch, un siècle de jazz depuis la mort de Miles, sous les coups d'un policier devant un club new-yorkais. Un roman à la fois fiction, réel, historique, d'anticipation, musical et d'horreur humaine. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Waouh ! J'en pense que ça me fait dire qu'il y a toutes ces mélodies qu'on connaît, il y a tout cet univers musical qui existe aujourd'hui, et il y a tout celui qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra pas parce que certains n'ont pas pu. Composés parce qu'ils, eux, sont morts pour de vrai, dans la vraie vie, dans celle qu'on vit. Et puis je pense un jour un copain qui écrivait comme moi et qui me dit, tu sais, on sera peut-être jamais publié, peut-être qu'il y a des chefs-d'œuvre qui dorment dans des tiroirs depuis des siècles, et c'est comme ça. Et je me dis qu'il y a peut-être des chefs-d'œuvre qui dorment dans des tiroirs quelque part, et j'incite tous ceux qui nous écoutent et qui savent créer d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec de la musique, avec des mots, avec un pinceau, un crayon, peu importe, à créer et à donner au monde une petite partie d'eux-mêmes, parce que c'est comme ça qu'on rend le monde un peu meilleur.
Et ben voilà, moi j'écoute Miles Davis, j'écoute ce titre qui ouvre l'album You're Under Arrest de 85. C'est un titre qui s'appelle One Phone Call / Street Scenes, c'est-à-dire à peu près 4 minutes 35, c'est 4 minutes 35 de cinéma. Mais c'est du cinéma réel. Miles raconte la rue, la réalité, on plonge, on entend la voix du jeune Sting d'ailleurs qui incarne le flic. On entend Miles marmonner des sortes d'incantations. Il y a quelque chose d'intemporel dans ce titre, il y a quelque chose de romanesque, complètement déconstruit. Il n'y a pas de sens mélodique, mais c'est une sorte de constat amer. Miles dévoile, Miles qui toute sa vie avait chéri les mélodies vers la fin de sa vie, dévoile une sorte de cynisme révoltant et révolté. J'avais envie de finir cet Improbox numéro 2 avec vous, Maxime Chatham, et avec vous, Nesrine, sur ce titre tellement important aujourd'hui pour sa portée symbolique. Le jazz met la violence de la réalité qui dépasse de loin la peur imaginaire. Le temps et ses incommodantes infortunes de l'histoire, l'histoire qui se répète, et on sent bien qu'on apprend finalement que peu, voire rien, de nos erreurs passées. Heureusement, le jazz sauvera le héros, car c'est son imaginaire qui le fera revivre à travers des œuvres magiques. Voilà. Maxime Chatham, Nesrine, merci à vous deux. Merci aussi à Jean-Charles Doucan, qui nous a réalisé cette émission. C'était Ibrahim Malouf avec l'Improbox numéro 2, avec Maxime Chatham encore une fois, qui sort ce bouquin génial qui s'appelle L'Illusion, avec Nesrine qui sort l'album qui s'appelle Nesrine. Je vous souhaite une bonne soirée à tous nos auditeurs. Merci d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous. Rendez-vous le 16 décembre pour l'Improbox numéro 3. On parlera de philosophie. Je dis pas qui sont mes invités, ce serait la surprise. Belle fin de soirée à tous, et on écoute maintenant Miles, One Phone Call Street Scenes.
Merci à vous.
Somebody's here. What you got? What's that? Cuffs in? Handcuffs. Handcuffs. Made especially for you. Handcuff some of this down here.
You're the shortest. We know you.
Wait a minute, I gotta do something for me.
It's too late. We got
find you next. Yellow Ferrari.
And yeah, that one though. Where you must have found Miguel. Rest of it.
Cokolwiek nie powiesz, będzie użyte przeciwko tobie, więc lepiej siedź cicho.
Yo vine de Miami y este es parte de mi religión. Y no me diga que me calle.
Tu as le droit de tenir le silence. Rien que tu dis va se dire contre toi. Alors, tais-toi.
Et toi, somme de...